De ce point de vue, si un artiste n'a pas d'album, ça veut dire qu'on ne le passe pas en radio. Ça veut dire que donc les gens ne le connaissent pas. Ça veut dire qu'en concert, il a quand même un petit peu de mal à trouver un producteur comme Pierre-Yves Romano, qui aura du mal à lancer un artiste sur une scène en sachant qu'il n'y a pas d'album et donc pas de radio qui va le passer.
Mais c'est sûr, la recherche de concerts sans album, c'est aujourd'hui vraiment. Je pense que c'était plus facile il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est pratiquement mission impossible. C'est incroyable. Ça demande un effort de chaque jour. Il faut vraiment que quelqu'un s'y colle et c'est très très dur, mais en même temps je pense que le vrai problème du téléchargement c'est effectivement ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire que les maisons de disques, c'est une économie et les artistes qui sont déjà installés, on va dire, effectivement c'est, il y a un manque à gagner, on vend moins de disques, tout ça, mais le plus grave dans l'histoire c'est que les maisons de disques vont beaucoup beaucoup moins signer de jeunes artistes, beaucoup moins prendre de risques, et je me dis que si ça continue comme ça, qui dans 4 ou 5 ans, qui va trouver le nouveau Benabar, qui va trouver le nouveau trio, le nouveau Zebda, et voilà quoi. Et c'est ça le problème, c'est que on prendra pas le risque de miser quelques billes sur un groupe quoi. C'est ça le vrai problème du téléchargement. Pour moi c'est pas le manque à gagner, c'est que on va vers une culture vraiment appauvrie parce que avec des coûts sûrs, quoi. Voilà.
Moi, je voudrais rebondir un peu sur tout ce qui a été dit à l'instant. On a beaucoup parlé des relations entre les maisons de disques et les organisateurs, les entrepreneurs de spectacles. Il fut un temps où le spectacle, c'était le petit plus, c'était un élément de promotion du disque. Aujourd'hui, on voit que ça s'inverse. Est-ce que quelque part, un jour, c'est pas vous qui allez reprendre la donne, vous, les organisateurs de spectacles, en devenant créateurs de vos propres labels, si ce n'est déjà fait?
Comme c'est en train déjà de se passer petit à petit, oui, il y a une telle différence, il y a un tel changement depuis une dizaine d'années, rebondir un peu sur ce que disait Guillaume, c'est qu'effectivement, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, un groupe qui se montait pouvait aller jouer sans disque, sans maison de disque, sans rien. Et effectivement, à force de faire de la scène, et d'arriver à passer palier par palier, arriver après à décrocher un contrat, à tourner et à travailler, entre guillemets, c'est-à-dire à jouer. Maintenant, effectivement, on ne parle que de projets, ce sont des projets à court terme, avec du marketing, une stratégie, et on oublie un peu l'émotion artistique que peut donner justement un auteur, un artiste ou un groupe.
Antoine Mazur.
Moi, ce que je peux dire de ça, c'est que il y a une prise de conscience importante ces 10-15 dernières années, à travers un mot un peu technocratique, qui est la notion de filière musicale, qui consiste à dire qu'on n'est pas forcément des ennemis, ou en tout cas des adversaires, mais que, quelque part, on doit travailler, faut pas être trop naïf non plus, mais enfin, un petit peu main dans la main, pour éviter justement une trop grande dispersion, et faire en sorte qu'au contraire, les efforts des uns ou des autres s'additionnent. Donc de ce point de vue, moi je suis persuadé que les entrepreneurs de spectacle n'ont pas forcément, et n'ont certainement pas d'ailleurs, à se réjouir des difficultés que traverse le disque et de certaines des causes qui sont à l'origine de ces difficultés. Et par ailleurs, ce que je peux dire aussi, c'est que par rapport à un certain regard et une certaine pratique qu'avait le secteur discographique vis-à-vis de la scène, je parle de ça il y a 10-15 ans, les choses ont complètement changé. Effectivement, il y a 10-15 ans, ce que vous décriviez est vrai, c'est-à-dire que le spectacle c'était de la promo, et l'entrepreneur de spectacle était avant tout considéré comme un prestataire à qui on demandait de bien vouloir organiser des concerts, que ça se passe au mieux. Tout ça servait en fait à, quelque part, booster des ventes d'albums. Aujourd'hui, ça a complètement changé, en grande partie changé, dans le sens où l'affirmation des talents scéniques d'un artiste a pris une dimension absolument considérable, y compris au sein des maisons de disques. Autrement dit, aujourd'hui, même si c'est pas forcément systématique et qu'il peut y avoir de très beaux succès discographiques sans avoir forcément des talents scéniques prodigieux, il n'empêche quand même que globalement les maisons de disques ont un regard sur la scène qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'il était il y a 10-15 ans, au sens où, sans vouloir encore une fois être trop naïf, on n'est plus du tout dans cette pure logique de promo, mais que quelque part, le succès de l'un doit accompagner le succès de l'autre. Alors, je ne veux pas faire trop d'angélisme, mais de ce point de vue, ce côté simplement le type qui organise les concerts, qui est un prestataire, ça a changé, et ça a amené un autre regard sur la scène et les métiers qui sont autour, l'artiste bien sûr, mais également celui qui prend le risque de les produire.
Nous allons maintenant à Partenay retrouver Nicolas. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Oui, alors peut-être une question un peu dans une avec une note un peu discordante en cette journée de la musique, donc qui concerne le CNV, question peut-être aussi un peu technique et précise qui méritera peut-être une petite explication aux auditeurs de comment fonctionne le CNV. En tout cas, donc pour les aides,
on va essayer de faire court, hein, Nicolas, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs ce soir au téléphone sonne.
Ce sera à vous après de donner les précisions. Non, concernant les aides que peuvent demander les festivals auprès du CNV. Il y a cinq critères qui sont pris en compte, dont aucun n'est éliminatoire à lui seul, tel que c'est écrit. Mais donc, trois d'entre eux sont quand même un peu embêtants pour les petits festivals. Le premier, c'est programmer 15 spectacles dans la majorité à entrée payante. Le deuxième, un potentiel de public payant d'au moins 3000 spectateurs. Et le troisième, un budget prévisionnel d'au moins 152 000 euros. Donc évidemment, on se rend compte que beaucoup de petits festivals ne rentrent pas dans ces cordes-là.
Oui, alors votre question finalement, Nicolas, partant de ce principe, quelle est votre question ?
Sauf que tout le monde paye la taxe fiscale, donc oui, qui est le principal. Et donc du coup, je me demandais donc si cet impôt n'était pas un petit peu obligatoire et injuste pour les petits festivals.
Alors, donc, on va essayer de répondre simplement, Antoine Mazur, même si c'est, je crois, un dossier très technique et qui dépasse un peu le cadre de ce téléphone.
Oui, c'est très technique. En tout cas, je confirme que vous êtes, monsieur, très très au fait, hein, parce que tout ce que vous avez dit est vrai. Que vous dire ? Il y a des centaines de festivals sur le territoire. Le propos du CNV, c'est, dans la mesure du possible, d'essayer de concentrer ses aides sur ce que la profession considère comme étant prioritaire d'aider. Alors, on peut en parler pendant des heures. Ce que je veux simplement dire, c'est que le CNV n'est pas une administration lointaine et coupée de tout. Ces commissions sont avant tout animées par des professionnels. Donc, faut pas voir dans cette posture, encore une fois, le comportement d'une administration lointaine, mais c'est plus des choix de professionnels, dont certains d'ailleurs considèrent que déjà aujourd'hui, le CNV aide trop de festivals et qu'il faudrait concentrer sur un nombre plus petit. Donc tout est une affaire d'équilibre. En tout cas, je vous félicite pour votre bonne connaissance de notre fonctionnement.
Nous allons à Villeurbanne retrouver Guy. Guy, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous. Moi, ce qui me gêne aujourd'hui dans cette fête de la musique, et depuis quelques années d'ailleurs, c'est qu'on trouve, on va trouver ce soir dans des grandes villes de France, hein, Paris, Lyon, des plateaux avec des musiciens professionnels et des artistes reconnus, où des boîtes de prod vont organiser des spectacles. Ce soir à Paris, Céline Dion, et toujours les mêmes, la soupe actuelle. Et c'est dommage parce que le public, d'ailleurs, a tendance à rejoindre ces plateaux. Alors que je pense que cette fête de la musique devrait être réservée uniquement à des musiciens amateurs. C'est pourquoi avait été créée cette fête. Qu'en pensez-vous ?
Alors Pierre-Yves Romano, est-ce que ça a été trusté par les Céline Dion et autres marchands de soupe, comme disait notre auditeur à l'instant ?
Forcément, il y a forcément, entre guillemets, un petit rattrapage commercial, parce qu'il y a quand même un potentiel public présent ce soir-là, c'est exceptionnel, des artistes qui ont besoin de faire de la promo, tout, on va dire, une certaine partie de l'économie de ce secteur qui travaille aussi ce soir-là.
Alors nous allons maintenant dans les Yvelines retrouver Joël. Joël, bonsoir.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Moi, je voulais évoquer la production de nombreux DVD de concerts qui sortent.